6 avril minuit à prix.théâtre@rfi.fr. Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. Il est 11h en temps universel, 13h ici à Paris. À la une, l'hésitation, la méfiance de nombreux Libanais après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. Israël a tout de même bombardé le pays jusqu'aux dernières minutes précédant la trêve, faisant notamment 13 morts à tir. Bombardé aussi certains villages du sud du pays ce matin, mais de manière beaucoup moins intense que ces derniers jours. Nous appellerons nos envoyés spéciaux dans un instant dans le journal. Des discussions pourraient de nouveau avoir lieu aussi entre les États-Unis et l'Iran ce week-end, selon Donald Trump. Un accord semble très loin, mais les deux pays espèrent pouvoir au moins éviter une reprise de la guerre à l'issue du cessez-le-feu qu'ils ont conclu. Et pour l'heure, Paris essaie de réfléchir à l'après, au moyen de garantir la circulation des navires dans le fameux détroit d'Ormuz à l'avenir. On vous en dit plus dans la Fabrique du Monde dans 10 minutes. L'incertitude, la spéculation sur les marchés maintiennent les cours du pétrole à un niveau très élevé, même s'il est un peu moins ces dernières heures. Conséquence, l'essence, le gaz coûtent de plus en plus cher partout dans le monde. Et nous irons en mesurer les conséquences pour l'Afrique de l'Ouest tout à l'heure dans Afrique Midi avec la rédaction Amande Incan de RFI. On parlera aussi dans RFI Midi de ces manifestations aujourd'hui en Cisjordanie occupée, de familles de prisonniers palestiniens retenus par Israël, sans visite de leurs proches depuis le 7 octobre 2023, y compris lorsqu'il s'agit d'enfants.
Mon fils de 15 ans est en prison, cela fait maintenant 18 mois, et la situation est très difficile là-bas. On parle d'enfants, sans visite pour les avocats, pour nous, ou le croissant rouge, c'est très dur.
Reportage de notre correspondante à Ramallah à écouter à midi 25 temps universel.
RFI midi.
Avant cela, on reviendra avec notre invité sur ces menaces de la Russie. Moscou a publié les adresses d'entreprises européennes et israéliennes livrant des drones à l'Ukraine ou utilisés par Israël, en précisant que ces groupes représentaient désormais des cibles potentielles pour l'armée russe. Analyse dans un peu plus d'une heure. Et puis nous irons au Cameroun où le pape a célébré tout à l'heure une messe devant 120 000 personnes à Douala. Vous avez le programme. Bienvenue. Et le journal pour commencer. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Un fragile cessez-le-feu est donc entré en vigueur entre Israël et le Liban.
Oui, ce cessez-le-feu prévu pour durer 10 jours a commencé à minuit, heure locale, mais peu après, le Liban a déjà rapporté des violations. L'armée libanaise a fait état d'un certain nombre d'actes d'agression israéliens et de bombardements sporadiques ayant touché plusieurs villages. Elle a aussi appelé les habitants déplacés par les combats à différer leur retour dans le sud du Liban. Abla Jounedi, vous êtes sur place. Vous avez pris, Abla, la route du sud où le trafic est très chargé. Hein. De nombreuses familles cherchent à rentrer.
Oui, avec Jadel Khoury, presque aussi vite qu'ils étaient partis se réfugier vers le nord il y a un mois et demi, ils sont de retour. Un voyage long et fastidieux tant ils sont nombreux sur cette route côtière. Un voyage teinté de gloire pour certains qui lèvent les drapeaux jaunes du Hezbollah ou verts du mouvement chiite Amal. Certains enfants font le V de la victoire. Nous rentrons chez nous la tête haute, nous confia une dame qui va rejoindre son village près de Nabatillé. Mais les sentiments sont mitigés. En réalité, beaucoup de familles ont perdu des proches dans cette guerre ou la précédente. Des affiches écharpes à l'effigie des martyrs ornent de nombreuses voitures sur la route. Le risque que ces familles prennent en retournant dans le sud, où la trêve fragile peut à tout moment se briser dans toutes les têtes. À la sortie de Saïda, où nous nous trouvons en ce moment même, des organisations distribuent des tracts sur les dangers qu'elles encourent. Mais tous poursuivent leur chemin, encore long, jusqu'à leur ville ou leur village.
Abla Jounaidi et Jadel Khoury, merci à vous deux. Entre l'Iran et les États-Unis, les tractations se poursuivent sous l'égide du Pakistan afin d'organiser une deuxième session de négociation après l'échec de la première le week-end dernier à Islamabad. L'influent chef de l'armée pakistanaise est de retour d'Iran où il a rencontré le président du Parlement, considéré comme le principal interlocuteur iranien. Il n'y a pour l'instant pas de date fixée pour un nouveau round de discussion. Donald Trump, lui, estime qu'un accord est très proche et assure que Téhéran a accepté de se séparer de son uranium enrichi. Une réunion sur la sécurisation du détroit d'Ormuz se tient actuellement à Paris à l'initiative du président Macron et du premier ministre britannique Keir Starmer. La trentaine de participants doivent travailler à la mise en place d'une mission de sécurisation de la navigation dans le détroit une fois que le fragile cessez-le-feu irano-américain sera consolidé. L'idée, Nicolas Falaise, est de préparer la suite et de rétablir la confiance indispensable à la navigation commerciale.
Pas question d'accepter la présence de mines menaçant les navires dans le détroit d'Ormuz. Pas question de tolérer un péage dans ce couloir maritime vital pour l'économie mondiale. Et pas question de modifier les règles de navigation dans ce détroit comme dans toutes les mers où le droit international doit s'appliquer. Selon la présidence française, c'est autour de ces trois principes que prendra forme l'initiative pour la navigation dans le détroit d'Ormuz. Une quarantaine de pays représentés. Parmi les dirigeants impliqués, Emmanuel Macron pour la France, Keir Starmer pour le Royaume-Uni, Friedrich Merz pour l'Allemagne et Giorgia Meloni pour l'Italie. À Paris, on assure que certains pays participants pourront se faire entendre des États-Unis et d'Israël, alors que d'autres pourront être écoutés par l'Iran. Il ne s'agit pas d'une opération militaire, souligne-t-on de sources françaises, mais bien de planifier une opération de sécurisation devant intervenir lorsque les conditions le permettront. Reste à mettre tout le monde d'accord. Le chancelier allemand Merz estime que les États-Unis pourraient se joindre à cette initiative. Mais côté français, on assure qu'il n'est pas envisageable d'intégrer des belligérants.
Nicolas Falaise, en Birmanie, la célébration du Nouvel An donne lieu à une vaste amnistie dans un contexte de transition à la tête du pays. La principale libération est celle de l'ancien président Win Myint, emprisonné depuis le coup d'état militaire de 2021. Quant à Aung San Suu Kyi, elle voit sa peine réduite, on ne sait pas de combien. L'icône des chutes de la démocratie birmane purge une peine de 27 ans dans un lieu tenu secret. Le pape Léon XIV poursuit son voyage au Cameroun avec un temps fort tout à l'heure, une messe géante célébrée à Douala, capitale économique du pays, en présence de plus d'un million de fidèles.
Un premier groupe d'immigrés venus des États-Unis vient d'arriver en République démocratique du Congo.
Oui, il était attendu depuis l'annonce par les autorités congolaises. C'était le 5 avril d'un accord signé avec l'administration américaine. On retrouve Paulina Zidi en direct de RDC. Ce premier groupe, Paulina, a donc atterri dans la nuit à Kinshasa.
Oui, l'avion s'est posé en début de nuit à l'aéroport de Ndjili, l'aéroport international de la capitale congolaise. Pas de communication officielle encore, mais cette arrivée nous a été confirmée par plusieurs sources. Le vol parti des États-Unis a fait au moins une escale à Accra, au Ghana. Selon nos informations, ce premier groupe est composé de 15 personnes, 7 femmes et 8 hommes. Ils seraient de nationalité péruvienne, colombienne et équatorienne. Pour l'instant, on ne sait pas encore où ils vont être logés, mais ils doivent être pris en charge ici par l'OIM, l'Agence internationale des migrations, qui a un bureau à Kinshasa. Alors, selon une source diplomatique, cette arrivée était prévue puisque des agents hispanophones ont été recrutés pour le suivi de ce dossier. D'autres arrivées sont d'ailleurs déjà envisagées. Un autre groupe de 15 personnes doit suivre incessamment, selon nos informations. Un diplomate en poste à Kinshasa ajoute que cet accord, qui n'a pas été rendu public, porte sur l'accueil par la RDC de 50 à 100 migrants en provenance des États-Unis chaque mois. La totalité des frais de cette opération doit être pris en charge par l'administration américaine. Du côté des officiels congolais, on rappelle que ces personnes n'ont pas vocation à rester sur le territoire congolais, mais elles seront ensuite rapatriées dans leur pays d'origine.
Merci Paulina pour toutes ces précisions. C'était Paulina Zidi en direct de Kinshasa.
En France, la très controversée proposition de loi Yadan a été retirée.
Oui, censée lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme, elle ne sera finalement pas examinée à l'Assemblée nationale. Le texte porté par les macronistes a suscité une forte opposition avec plus de 700 000 signatures contre lui. Ses détracteurs dénonçaient un risque d'atteinte à la liberté d'expression, dérive qui empêcherait toute critique de la politique israélienne. Le gouvernement renonce tout en promettant de préparer une nouvelle version du texte préparée par Aurore Berger, la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Carlotta Morteu.
La main est tendue à tous les partis.
Plus on sera nombreux autour de la table, mieux ce sera.
Aurore Berger change de méthode.
Et donc, ni copie blanche, ni copie déjà écrite.
Une remise à plat pour faire baisser la pression.
On a besoin à la fois de retrouver du calme, du sang-froid, de la sérénité, parce que c'est un sujet qui le mérite. C'est-à-dire qu'on a celles et ceux qui cherchent en permanence à attiser des fractures dans notre pays. Je pense que c'est plus urgent de chercher à réconcilier.
Ardente défenseuse de la loi Yadan, Aurore Berger dénonce une campagne de désinformation et de cyberharcèlement venus, selon elle, de la France insoumise.
Ils expliqueront pourquoi ils refusent l'invitation du gouvernement à lutter contre l'antisémitisme et à co-construire ensemble un projet de loi. C'est le cas de la France insoumise.
Ses opposants de la gauche radicale qu'elle met au pied du mur.
Moi, j'ai réuni toutes les forces politiques le 28 avril. Si elle considère que le champ doit être élargi et aller non seulement à la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi l'élargir au combat contre le racisme et discrimination liées à l'origine, je suis par principe ouverte à leurs propositions. Donc je ne ferme pas la porte à l'idée que le champ puisse être élargi. Je suis lucide sur le fait qu'il y a des spécificités sur la question de la lutte contre l'antisémitisme qui suppose des réponses spécifiques. Il n'y a jamais eu dans notre esprit, parce que c'est notre esprit, il est républicain, de hiérarchie ou de tri.
Objectif, voter un texte transpartisan avant l'été.
Carlotta Morteo, toujours en France. Une prise de position d'Emmanuel Macron sur la crise chez Grasset, la maison d'édition. Grasset, mais aussi tout le monde de l'édition, a plongé dans une crise après le départ du PDG Olivier Nora. Départ imputé par de nombreux auteurs, au propriétaire d'Hachette, le milliardaire Vincent Bolloré. Le président Macron juge très important de défendre le pluralisme éditorial. Il a dit ce matin en visitant le Salon du Livre.
Toujours en France, une question. Y a-t-il trop d'opérateurs téléphoniques?
Passer de 4 à 3 opérateurs. Le sujet est en discussion depuis près de 15 ans. Il pourrait devenir rapidement réalité. Bouygues, Orange, Free, Iliad dont en effet a annoncé être tombé d'accord sur un prix de rachat de SFR, montant qui dépasse les 20 milliards d'euros. Les négociations exclusives doivent durer jusqu'au 15 mai prochain. Mais Aurélien de Vernois, cette opération présentée comme historique est encore loin d'être bouclée.
En effet, Gilles, car même si l'accord de rachat est validé le mois prochain, démarra ensuite la phase dite de consolidation parmi les sujets les plus sensibles. La question de l'avenir des 12 000 salariés de SFR. Du côté des syndicats de l'opérateur, même si l'on reconnaît un certain soulagement que les discussions aboutissent enfin, la situation financière de SFR étant préoccupante, on craint une importante casse sociale. Jusqu'à 8 000 emplois pourraient être menacés, estime la CFDT, sans parler des filiales dans les Outre-mer et des 3 000 salariés d'ATS en charge du réseau de SFR et dont l'activité dépend largement de l'opérateur. L'offre de rachat est en revanche vue avec satisfaction dans les milieux financiers, mais aussi par certains politiques, dans le camp macroniste par exemple. On estime que cela va permettre de consolider l'industrie des télécoms, la guerre des prix diminuant les marges et donc la capacité d'investissement des opérateurs. L'enjeu concerne également la souveraineté. Les émetteurs de SFR sont en partie issus du géant chinois Huawei, avec lequel l'État français souhaite limiter les échanges. Le ministère de l'économie a toutefois assuré ce matin qu'il resterait vigilant sur la préservation de l'emploi, mais aussi sur l'impact sur les prix des abonnements.
C'était Aurélien de Vernois du service économie. Enfin en tennis, le tournoi sur terre battue de Barcelone. Un Français aujourd'hui en quart de finale. C'est Arthur Fils, le numéro 30 mondial. Et il retrouvera l'Italien Lorenzo Musetti, tête de série numéro 2. Voilà, très bonne journée sur RFI, tout de suite en compagnie d'Anne Cantner.
À tout à l'heure, Gilles Moreau pour un nouveau journal. Comme chaque jour à cette heure-ci, la Fabrique du Monde, on l'a dit, Paris organise aujourd'hui une conférence consacrée au détroit d'Ormuz, dont on parle beaucoup depuis le début de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. L'objectif affiché par la France, Daniel Valo, et par le Royaume-Uni qui soutient l'initiative, c'est de sécuriser ce passage maritime en réunissant une trentaine de pays.
Oui, c'est une idée que Emmanuel Macron avait présentée décidément le mois dernier, lorsque le président américain avait demandé en vain à ses alliés de l'aider à débloquer le détroit. À présent, Donald Trump demande exactement l'inverse, puisqu'il veut organiser une sorte de contre-blocus en visant bien sûr uniquement les navires iraniens. Et là encore, il se heurte au refus des pays européens qui ne veulent décidément pas s'engager militairement auprès de cet allié aussi inconstant qu'incohérent et surtout indifférent au respect du droit international. Ni Paris ni Londres ne souhaitent cependant rester les bras croisés. Et c'est donc le sens de cette mission, assurer la sécurité du détroit, oui, avec des moyens militaires si nécessaire, mais seulement quand une paix durable sera signée.
Avec des contours qui restent encore assez flous, qu'est-ce qu'on sait à ce stade des objectifs et de la forme que pourrait prendre cette mission ?
Eh bien, il s'agira de rassurer les navires qui traversent le détroit, bien sûr, mais aussi de rassurer les compagnies d'assurance pour éviter qu'elles ne réclament des primes rédhibitoires pour cette traversée. Selon l'Élysée, il s'agit enfin d'empêcher l'instauration de ce fameux péage que l'Iran voudrait mettre en place, autrement dit, revenir à la libre circulation qui prévalait avant le conflit. Alors, comment procéder ? D'abord par le déminage du détroit, ensuite par une présence militaire navale et aérienne, ce qui se fera, et l'Élysée insiste sur ce point, sans l'appui des États-Unis qui ne sont pas invités à cette conférence, étant partie prenante au conflit. Les Européens et leurs éventuels compagnons de route en auront-ils les moyens ? Cela reste à démontrer. Un atout réel est toutefois à la disposition des pays européens, leur capacité de déminage marin qui sont importantes et même supérieures à celle des États-Unis.
Et puis il y a un précédent, c'est celui de la guerre des tankers dans dans les années 80.
Oui, en bon français, la guerre des pétroliers. Pour rappel, l'Irak et l'Iran se livrent alors à une guerre meurtrière et la traversée du détroit d'Ormuz devient extrêmement dangereuse. Des dizaines de navires sont attaqués entre 1985 et 1988. Et ce qui est intéressant, c'est que les pays occidentaux ont alors déployé des moyens militaires pour tenter d'assurer la sécurité du détroit. La France en particulier, qui envoie sur place, sur décision de François Mitterrand, le porte-avions Clémenceau.
Alors vous l'avez dit, la mission qu'aujourd'hui la France et le Royaume-Uni veulent mettre en place, elle n'aura lieu qu'une fois le conflit terminé. Donc là, on est vraiment dans le domaine de l'hypothétique, voire de l'incantatoire pour l'instant.
Et cela rappelle d'ailleurs un petit peu la coalition des volontaires mise sur pied, là encore, par la France et le Royaume-Uni pour l'Ukraine. Coalition qui n'interviendra qu'après la fin du conflit pour garantir un éventuel cessez-le-feu. On est donc à ce
stade. HDR, vous écoutez HDR 99.1.
HDR, le mix de toutes les cultures.
HDR.
You
can say in every angle and every way, but the way how you're watching at me, I go bust a right hook in your belly. It look as if you want trouble here tonight, while you're always looking for fight. I'll tell you this candidly, that is why the jail never empty. You know that I'll be proud and glad if Samson and Delilah come back to Trinidad. But when they come, I wouldn't go in the theater, because look, the jabber of the ass right here. Well, ladies and gents, to tell you this, I'm sure, when the circus was here, they had a big uproar. Walking hand in hand, the female chimpanzee take Melo for she man. Baroque, that is a mistake, and in my opinion, you give me a headache. This is what I'm forced to say, it's the same mistake you're going to make today. Well, Melody, you have me in a rage, winding up on the stage. You feel you're looking cute, but when you finish, take off the dead man's suit.
HDR, le mix de toutes les cultures.